tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, sur Internet comme à la cour, entendre la cour du roi ou la cour d'école, de l'art en immersion à la ligue du LOL, comment les bons vieux rapports de domination se sont-ils reproduits sur la toile? On en parlera avec notre invitée, la romancière Sandra Lucbert, à partir de 12h55. Mais d'abord, une émission pour adultes, une exploration intime de l'imagerie érotique et pornographique entre répulsion et fascination, les chemins de désir et le titre d'un livre qui paraît au seuil et d'une fiction sonore diffusée sur Arte Radio et d'une représentation à voir le vendredi 22 mars à la Maison de la Poésie à Paris. La journaliste et traductrice Claire Richard, son auteur et notre invitée, à écouter tout de suite si vous le souhaitez sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
La métaphore des chemins de désir nous conduit loin des sentiers battus. Elle appelle à creuser des tunnels, à surmonter les obstacles. Les chemins de désir, diffusés sur Arte Radio, épisode 1, extrait.
Les urbanistes les appellent chemins de désir. On les trouve dans la neige sale, l'herbe foulée, dans la boue et sur le bitume frais. La plupart du temps, on les voit à peine. Les chemins de désir matérialisent ce que les gens veulent, par opposition à ce que d'autres ont prévu pour eux. Ce sont par exemple les sentiers qui s'ouvrent à 100 mètres d'une passerelle toute neuve, parce que c'est là que les gens aiment traverser. Ou les traces de pas dans une rue enneigée, qui révèle que personne n'emprunte les passages cloutés. Les chemins de désir sont anonymes. Ils font leur lit où la vie passe. Obscurs, invisibles et déterminés.
Bonjour Claire Richard.
Bonjour.
Les chemins de désir au seuil, c'est d'abord un roman d'apprentissage, un récit qui avance par étapes et qui commence enfant, gagne en maturité. C'est un peu votre cheminement que vous racontez là.
Oui, je pense qu'on peut dire ça. Ouais. C'est présenté comme un roman, c'est une autofiction, mais c'est sûr que c'est très nourri de ma propre expérience et de mes propres explorations. Voilà. Mais c'est également très écrit, enfin le tout mis à distance aussi par une certaine écriture, afin que l'idée c'était que ça ne soit pas que mon histoire, mais que ce soit traversé de plein de moments qui disent aussi une histoire un peu collective, quoi, que les pratiques de pornographie dont il est question dans le texte, elle recoupe à plein d'endroits des pratiques d'autres gens, des pratiques collectives.
C'est une voix, celle de la narratrice, à laquelle se mêlent ou s'ajoutent les questions d'un interrogateur imaginaire, des fragments de texte, d'images vues, extraits. Comment diriez-vous que ces images vous ont affecté? Ont-elles été des coups dans l'eau, des coups au cœur, des ondes de choc ou bien des galets jetés sur l'eau dont les ricochets sourlent à perte de vue? Cette image, aujourd'hui, diriez-vous que vous pouvez la dessiner, les yeux fermés? Il y a des questionnements et il y a aussi des réponses. Partagez avec le lecteur ce cheminement initiatique, érotique, cette exposition de toi. Du soi, vous avez choisi de le faire sur le ton de la confidence ou plutôt celui de l'analyse. Qu'est-ce qui vous semblait le mieux à même de vous raconter ou de raconter une expérience de femme à travers aussi sa sexualité, le rapport à son corps?
En fait, je pense que je visais vraiment une forme d'entrelacement, c'est-à-dire de raconter, de tenir à la fois quelque chose de très précis, c'est-à-dire ce que j'appelle la vie pornographique, donc la création d'un imaginaire, en gros, de la fin de l'enfance et de l'image vue par hasard à la trentaine, mais que ce soit tout le temps traversé de choses, voilà, enfin comme je le disais au début, plus large, plus sociale, etc. Parce que il me semblait aussi que si je demandais l'attention des lectrices, des lecteurs, des auditeurs, parce que ça a d'abord été pensé pour le son. J'ai l'impression que ce geste-là, il se justifie dans la mesure où cette histoire très propre et très privée, elle renvoie, mais assez explicitement, où elle propose beaucoup d'ouverture vers les gens qui écoutent. Donc, cette espèce de tension, c'était quelque chose que j'avais en tête. Et après, j'ai un peu calmé mon côté analytique. Je pense que si ça avait tenu qu'à moi, il y en aurait eu plus. mais c'était très bien qu'il n'y en ait pas plus.
Il y en a, mais peut-être de l'ordre aussi d'une psychothérapie collective sur le rôle des images, les effets qu'elles peuvent avoir sur nous, sur nos désirs, puisque c'est le titre et le cœur de ce roman. Quel instant fondateur ? Quel est votre premier souvenir, celui de votre narratrice ?
C'est un souvenir à la fin de l'enfance, vers 7 ou 8 ans, où la narratrice est chez sa grand-mère et elle un jour d'ennui et elle raconte qu'elle vit à ce moment-là dans les livres, et je pense que c'est assez important parce qu'elle a déjà un imaginaire qui est structuré par des représentations, en fait, pas à pas, une sorte de rapport direct au réel. Et donc elle s'ennuie et elle monte dans les étages et elle trouve des bandes dessinées, des illustrés érotiques, évidemment c'est caché. Et là elle feuillette et elle tombe sur plusieurs cases dont une qui la frappe particulièrement, qui représente deux femmes dans un imaginaire de BD assez érotique des années 70. Et cette image, et en fait c'est ça aussi, moi, cette espèce de mystère qui était le début du texte et qui ne cesse en vrai, même encore maintenant, même après avoir fini de m'interroger, qui est pourquoi cette image à ce moment-là, vue, volée, elle s'imprime à ce point. Qu'est-ce qui fait qu'une image qu'on a rencontrée par hasard, puisque là c'est le cas, va vous suivre pendant toute une vie. Et avec cette question qui est vraiment très importante de savoir, est-ce que c'est vraiment du pur hasard? Est-ce que du coup, la structuration de l'imaginaire érotique qui en découle, elle tient vraiment à cette pure coïncidence, ce pur hasard? Ou est-ce que ça venait rencontrer d'autres choses? Et il n'y a pas de réponse à ça. Mais c'est ce premier souvenir. Et ce que je trouvais aussi beau là-dedans, c'est que je pense que c'est un souvenir qui parle à plein de gens. C'est un peu archétypal. L'idée de trouver dans une bibliothèque
une image interdite.
L'image interdite.
Mmh. Ouais. Dont il vous restera plus tard 6 cases et 2 séquences. Mmh. Tapis dans l'ombre de la mémoire, ces images vont travailler avec les années. Vous l'écrivez dans la zone inaccessible où se forment les désirs. Une triade s'ébauche, sein, contrainte, cuir et corde. Alors à quelle occasion vont-elles ressurgir, ces images ?
Alors c'est de nouveau une rencontre par hasard, donc parce qu'il y a vraiment ce motif de la rencontre, quoi. Comme on pourrait dire une rencontre amoureuse, quand on est saisi par quelque chose. Et donc la narratrice, à l'adolescence, retombe dans une exposition de bande dessinée sur une autre, une sorte de variation en fait de l'image matricielle, qui est un extrait de l'Histoire d'eau, dessiné par Guido Cripax. Et là, parce qu'elle est adolescente, parce qu'elle a une sexualité qui commence, parce que tout simplement aussi elle a découvert la masturbation, donc il y a une sorte de système qui s'accomplit, puisqu'elle a un geste maintenant qui correspond aux images, et ça va lancer ce que le texte appelle ces chemins de désir, quoi. C'est-à-dire que ce qui était la graine posée par cette rencontre dans l'enfance devient un système imaginaire, quoi, un système fantasmatique qui se met en place et qu'elle rejoue à chaque fois qu'elle reconvoque l'image dans sa tête.
Quand cette première graine dans l'enfance est plantée, quelles sont souvent les premières sensations pour l'enfant ou le jeune adolescent ? Est-ce que c'est plutôt le trouble ou le plaisir ? Qu'est-ce que ça provoque, cette image interdite ?
Je pense que pour elle, parce que je peux parler que de cette narratrice fortement inspirée de ma propre expérience, pour elle, c'est vraiment un mélange de... C'est du trouble, mais c'est aussi une forme d'émerveillement, en fait. Je crois qu'il y a vraiment ça, en tout cas au filtre de la mémoire aujourd'hui, cette espèce d'émerveillement devant cette sensation possible, en plus qu'elle ne maîtrise pas au début, cette espèce de sensation qui arrive un peu comme un miracle. Enfin, c'est le terme que je crois que j'utilise à ce moment-là dans le texte. Et le rapport à l'érotisme qu'elle va forger elle-même dans son imaginaire fantasmatique qu'elle crée et qui se crée, va beaucoup être sous le signe de l'émerveillement et un peu l'excitation, mais aussi au sens de quelque chose de beaucoup plus léger, d'un peu un empressement, en fait, une grande curiosité à découvrir cette espèce d'espace imaginaire qui s'ouvre pour elle.
Alors vous le racontez plus tard, il y a les retrouvailles avec cette autre image, cette planche de BD à Angoulême en noir et blanc, inspirée d'Histoire d'eau de Dominique Horry alias Pauline Réage. Et vous écrivez « Je dévorais l'image des yeux pour pouvoir l'emporter avec moi, pour ne pas perdre ce qu'elle faisait se lever en moi, pour avoir le loisir d'examiner cette sensation, la déplier un peu plus tard, une fois seule dans ma chambre, loin des yeux curieux. » Là, on est encore dans un moment, dans une époque presque, où c'est le texte qui domine, où c'est le dessin qui domine. Est arrivée ensuite l'image, l'image vidéo, l'image télé. D'ailleurs, vous êtes aussi de cette génération qui a connu, et vous le racontez, le passage au porno en ligne, qui a découvert l'excitation dans les livres et s'est professionnalisé sur YouPorn. Ces images en prise de vue réelle, télé ou vidéo, est-ce qu'elles laissent pour vous, aujourd'hui, après coup, autant de place à l'imagination ?
Je pense que ce qui est très clair, et moi ce qui me frappait, parce qu'il y avait aussi dans l'idée de raconter cette histoire-là, cette vie pornographique, le fait que on est la dernière génération, enfin la mienne par exemple, qui peut parler de ce basculement. C'est-à-dire qui a un point de comparaison entre la pratique du porno avant et celle après. Je pense qu'en termes d'empreinte imaginaire, ça laisse pas... En tout cas, une fois de plus, je parle surtout de mon expérience, mais ça ne s'imprime pas de la même façon. Il n'y a pas la même répercussion, la même trace. Par contre, c'est peut-être moins l'image là que les architectures, les sites sur lesquels on les trouve, par cette espèce de démultiplication du possible, des catégories, des types de porno, qui évidemment ça existait déjà dans les sex shops, etc. Mais là, tout est accessible et tout est démultiplié. Et donc je pense que ce qui est perdu en termes de peut-être d'empreinte profonde, elle est compensée par un déploiement presque horizontal des possibilités imaginaires.
Le déploiement et le déplacement aussi. Ces heures de visionnage clandestines ont disparu, peut-être parce que ces films que j'attrapais à la volée n'avaient rien à voir avec mes chemins de désir et qu'ils n'ont comme tels pas laissé de traces. On est aujourd'hui dans une époque où il y a ce porno mondialisé qui est fait d'images assez calibrées et donc éphémères, par opposition aux premières images de l'enfance, celles des illustrés qui semblaient plus subjectives. On va retourner à l'épisode 3, puisque je rappelle que ce qui fait texte aujourd'hui, les chemins de désir, au seuil, fait aussi l'objet d'une fiction radiophonique diffusée sur Arte Radio. Dans l'épisode 3, la narratrice découvre Rêve Bébé, un site participatif d'histoire érotique, une nouvelle carte du monde telle que vous le racontez, un nouveau guide de navigation avec des centaines d'entrées et surtout le pouvoir des tags.
Je reconnais avoir pris connaissance du caractère sexuellement explicite de certains récits qui se trouvent sur ce site. Je certifie avoir atteint l'âge de majorité légale selon la loi en vigueur dans mon pays de résidence. Je m'engage à ne pas faire état de l'existence de ce site et à ne pas en dévoiler le contenu à des mineurs. Je ne suis pas majeur. Je vais sortir. Je suis majeur. Je veux entrer.
Aujourd'hui encore,
je suis majeur.
Ces six mots, je veux entrer, me mettent les jambes en coton.
Je suis majeur. Je veux entrer.
Je veux entrer. Rêve Bébé, c'est un site participatif d'histoire érotique où n'importe qui peut poster une histoire et commenter celle des autres. Les personnages sont souvent des époux fatigués, des épouses volages, des jeunes femmes brûlantes. Ils s'appellent...
Michel.
Sylvie.
Catherine.
C'est pas sexy, c'est pas branché, ça ne l'est pas devenu depuis, mais 10 ans plus tard, il m'arrive encore d'y retourner. Parce que c'est avec Rêve Bébé que ma vie pornographique est entrée dans l'âge adulte. C'est Rêve Bébé qui m'a fait découvrir le pouvoir des tags.
Bon, là, on en est encore qu'au tout début, mais vous découvrez à ce moment-là, enfin votre narratrice, qu'il y en a pour tous les goûts aujourd'hui, sur Internet notamment, qu'on vit dans une véritable arborescence de fantasmes. Et est-ce que vous découvrez en même temps, et surtout, qu'aujourd'hui, il n'y a aussi plus rien de commun, que les désirs sont complètement compartimentés, que les fantasmes sont de niches extrêmement codifiées. Est-ce que ça, c'est un vrai progrès, au fond ?
Alors c'est drôle parce que c'est vrai que je m'étais pas du tout posé la question dans ces termes-là, parce que moi je l'avais plutôt vu comme un déploiement. En fait, je crois que c'est l'image que j'utilise parce que ça me frappait vachement. J'avais l'impression que de cette espèce de matrice, les tags et l'arborescence, elle le déployait comme un éventail, et que c'était plutôt une forme d'enrichissement où, comme on imaginerait quelque chose qui de deux dimensions passe à, je sais pas, 5-6 dimensions, plutôt qu'une compartimentation. Parce qu'il me semble que l'architecture de ces sites-là, les tags, les renvois, en fait, tissent perpétuellement des renvois les uns avec les autres, plus que des silos qui seraient réellement étanches, en fait.
On n'est pas dans une sexualité de marché compartimentée, comme aujourd'hui dans un magasin de fringues ou dans un magasin alimentaire, pour vous, c'est pas ça. C'est pas qu'il y ait des rayonnages et chacun choisit son produit en fonction de ses affinités. L'abondance du choix fait qu'au final, le choix se resserre.
En fait, je pense que c'est assez différent, par exemple, selon les, je reviens aux architectures, mais parce que c'est assez central. Rêve Bébé, par exemple, c'est un site qui est vraiment, vraiment, vraiment participatif ou qui n'est pas payant. C'est du pur amateurisme. Et là, moi, justement, j'avais l'impression qu'au contraire, puisqu'il y a, toute une espèce de forêt, de tags, et avec un peu le côté, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, mais surtout des choses qu'en fait le marché de lui-même ne sélectionnerait pas, a priori. Après, c'est vrai que ça se modifie sur des plateformes plus grandes, comme YouPorn, comme Pornhub, mais c'est plus parce qu'elles vont mettre en avant, en fait, c'est aussi les phénomènes de personnalisation, etc., un certain nombre assez restreint de types de porno beaucoup plus classiques, mais malgré tout, je pense quand même que dans cette grande arborescence, dans cette espèce d'immense capharnaüm, se trouvent des choses plus précises. Et puis en plus, ça, c'est des sites très commerciaux desquels je parle. Mais après, il y a plein de sites beaucoup plus queer, beaucoup plus expérimentaux. Donc, je pense qu'il y a quand même énormément d'espace pour ces expérimentations-là, malgré tout.
Alors, à propos de ces sites, les mots de la réalisatrice Ovidie, qui met aussi en garde sur la société et la culture du porno qui est en train de se mettre à jour aujourd'hui.
On a le porno qu'on mérite, hein, et à chaque époque son porno. Le porno, c'est jamais que le reflet d'une société, c'est son reflet exacerbé, c'est le reflet le plus noir, je dirais, le plus exacerbé, le plus déformé. Et j'ai l'impression qu'avec Internet, il y a une forme de cynisme et un manque d'empathie totale qui s'est installé. C'est-à-dire, on le voit bien déjà sur les réseaux sociaux, on voit bien, par exemple, sur Twitter, parfois la violence de certains échanges, parce que vu qu'on ne voit pas l'autre derrière son écran, ben, l'autre finalement n'existe pas. Il se passe un petit peu la même chose sur les tubes, c'est que les actrices n'ont même plus de nom. Elles sont répertoriées par tag, par mots-clés, c'est-à-dire elles sont classées par caractéristiques physiques.
Alors avec humour, vous écriviez, Claire Richard, God comme Dieu, hein, bless YouPorn, que Dieu bénisse aussi cette chaîne. Elle, la réalisatrice Ovidie, parle de ce porno qu'on mériterait aujourd'hui, qui n'est que le reflet finalement de notre société. Vous êtes d'accord avec elle ?
En fait, je pense que ce qu'elle décrit, c'est aussi ce qui saisit la narratrice au bout d'un moment, c'est-à-dire...
Un vertige.
Un vertige et un sentiment d'être prise par les vitesses de la machine, en fait. Ce qu'elle raconte, c'est que, alors qu'à chaque fois, elle passe à un nouveau support avec un sentiment d'émerveillement un peu renouvelé, et c'est son cas quand elle arrive sur cette plateforme-là, mais qu'à terme, puisque ce sont des choses, effectivement, qui encouragent... Le zapping, la vitesse, la question de l'extrême aussi, des pratiques de plus en plus extrêmes. Et Ovidie raconte aussi dans son documentaire Pornocratie, en interviewant des gens, à quel point ces acteurs-là, comme dans d'autres secteurs du web, en fait aussi en volant des contenus, en poussant à des polarisations, ont aussi répandu des pratiques de plus en plus extrêmes qui se traduisent par des conditions de travail de plus en plus difficiles et prédatrices pour les actrices. Et en fait, la narratrice, elle sent ça. En elle sent cette espèce d'aplatissement des affects et de quelque chose qui serait à la fois très prédateur, c'est-à-dire de consommer de plus en plus de vidéos pour arriver de plus en plus difficilement à des résultats. Mais elle se trouve à un moment prise un peu prise au piège dans cette espèce d'arène un peu folle, tout en continuant à pratiquer. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup du point de vue de la littérature et de ce texte-là, c'était de tenir la contradiction, en fait, de dire que cette contradiction-là pour la narratrice n'est pas, à ce moment-là, n'est pas résolue. Et que, en elle cohabite une pensée féministe qui connaît ces conditions d'exploitation, qui les condamne, etc., mais, et aussi, une femme qui, la nuit, utilise ces tubes et donc, quelque part, contribue aussi à cet écosystème dont elle sait, par ailleurs, à quel point il est destructeur. Et le discours de la contradiction, notamment dans le féminisme, mais aussi ailleurs, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je trouve pas tout le temps aussi développé qu'il pourrait l'être, alors que pour moi, par exemple, dans mon expérience du féminisme, c'est central et que j'avais très envie que cette contradiction-là, elle apparaisse dans le texte et qu'il n'y a pas de résolution magique non plus, quoi.
Si je reviens à cette question du désir, vous évoquiez dès l'introduction, dès l'épisode 1 de cette fiction qu'on écoutait tout à l'heure, les lignes de désir coupées. Retrouver aussi ces lignes de désir. Est-ce qu'on est pour vous aujourd'hui une femme libérée, émancipée, quand on se laisse guider par ses désirs, ou au contraire plutôt quand on a réussi à les comprendre et finalement à les apprivoiser, à les maîtriser, ces désirs?
Moi, il me semble que c'est plutôt le fait, ouais, de les comprendre et de les connaître et de les accepter. Et c'est-à-dire que après, la question de est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut en faire, quelle pratique il faut y associer, ça, moi, c'est vraiment libre à chacune. Mais je pense vraiment profondément que le fait de les interroger, de les observer, de les accueillir, est libérateur. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et d'ailleurs, cette expression « les chemins de désir » que je trouve vraiment très belle, et puisque c'est aussi c'est une métaphore d'urbanisme pour parler des sentiers que les gens empruntent à côté des routes tracées, mais je l'avais aussi lu dans un texte d'une sexologue, en fait, et c'était elle aussi qui... C'était dans un texte très documentaire. Et elle parlait de ça, en fait, du fait que beaucoup de femmes, notamment, mais pas que, venaient la voir parce que, pour des raisons diverses, elles avaient coupé ces chemins de désir. Et voilà. Et moi, il me semble que du coup, mes chemins de désir, à plein d'égards, ils m'interrogent. Et ils me posent des questions inconfortables. Mais pour moi, c'est beaucoup plus libérateur, en fait, de reconnaître le fait qu'ils sont contradictoires, plutôt que de prétendre qu'ils sont pas là, quoi. Mmh.
Qu'ils sont contradictoires et que les conventions sociales continuent aussi à imposer, à marquer nos désirs, ces désirs personnels et individuels d'une certaine manière. Alors toute cette réflexion, ce texte est aussi, cette exploration est aussi prétexte à penser l'écriture. Comment vous définiriez-vous aujourd'hui cette langue du désir? Quelle est celle que vous avez choisie, retenue, qui vous semble la plus adaptée pour raconter le désir?
Moi, il m'a semblé que ce que je voulais faire, c'était rester dans un espace très précis qui était celui de cet affect-là, en fait, de décrire la sensation, beaucoup plus la sensation que les images, support. Je décris des vidéos, mais il y a très peu de termes techniques. C'est parce que c'était pas du tout l'idée. C'était vraiment cette sensation-là.
Intérieur et sensoriel. Mais ça évoque aussi cette phrase, pardon, de Virginia Woolf que vous citez pour fantasmer comme pour écrire. Il faut une chambre à soi avec cette démarche à la fois personnelle et émancipatrice qui va avec.
Ouais, tout à fait. Parce qu'il me semble que alors c'est peut-être un peu facile comme parallèle, mais qu'il y a un désir d'écriture qui amène vers l'avant et qui amène le texte et qui fait qu'on revient sur un texte et qu'on l'achève, et qui est quand même un peu comparable, avec évidemment toute chose égale par ailleurs, mais avec le désir qui pousse la narratrice à explorer des continents divers à chaque fois. Et bon, en fait, c'était pas non plus, mais c'est la question de, c'est les images aussi, quoi. Il y a vraiment beaucoup d'images, et la métaphore des chemins de désir qui tient tout et qui permet aussi, je pense, au texte de pas s'égarer et de rester tenu sur cette sensation.
Il y a l'écriture, il y a les images et il y a aussi la voix, avec cet érotisme radiophonique que vous pratiquez beaucoup moins loin que d'autres dans ces pornos radiophoniques. Ici, on est vraiment vers une sensualité aussi de la voix et de la langue, de ce que vous mettez en œuvre pour Arte Radio avec cette série fiction, et qui valorise et met en place tout un imaginaire que vous pratiquez donc aussi à travers ça. Ça doit rester un espace de partage, quel que soit le support aujourd'hui, que ce soit le texte, que ce soit l'image, que ce soit via la radio et la voix, ces sensations-là, il faut se demander comment pouvoir les partager avec d'autres.
Ouais, moi je pense que, comme aussi l'objet du texte, c'est le trouble, c'est intéressant de la même façon que dans le texte, il y a des questions qui renvoient, comme vous les lisiez tout à l'heure, aux lecteurs, aux lectrices. La radio, qui est vraiment le médium de l'intime, et en plus là on imagine beaucoup, parce que du coup c'est une fiction qui est réalisée par Arnaud Forest et Sabine Zovigian à Arte Radio, on imagine beaucoup qu'elle va être écoutée au casque, et que donc il va y avoir aussi ce rapport intime de quelqu'un qui serait immergé dans le son, pour que le trouble dont il est question puisse résonner en soi. Moi je pense que idéalement, ce que j'aimerais, c'est qu'on lise le texte et qu'on écoute la fiction, et que ça on l'écoute et qu'on parte en soi et qu'on revienne et que ce soit un mouvement d'aller-retour tout le temps.
Quel avenir pour l'érotisme ? On va donner la parole au dessinateur et auteur de bande dessinée italien, Milo Manara, dont les femmes sont absolument plantureuses, évidemment splendides.
Oggi è molto difficile sapere.
Vous savez, aujourd'hui, on se demande s'il y a encore des combats à gagner en matière d'érotisme. Je me pose souvent la question. Moi, je pense que notre rôle, le fameux rôle que nous avions, soit dans les années 68, la libération sexuelle, tout ça est dépassé. Si vous voulez, maintenant, ce qui compte, c'est le pur plaisir de l'érotisme. Je parle de l'Europe, naturellement. Je pense que nous n'avons plus aucun rôle en termes de libération des mœurs tels qu'ils étaient dans les années 68. Alors, en Europe, tout a déjà été fait, mais il n'y a pas que l'Europe. En dehors des frontières de l'Europe, je pense que là, l'érotisme peut encore jouer un rôle révolutionnaire.
Est-ce qu'il y a encore des combats pour vous à mener?
Moi, il me semble, en écoutant, je me dis que c'est vraiment la question de... des affects, puisque bien sûr, il y a de l'érotisme partout. On est dans une société extrêmement sexualisée où la pratique sexuelle, en tout cas, est énormément valorisée, commercialisée, etc. Mais c'est des affects commerciaux aussi. Enfin, je pense que moi, il y a d'énormes... Il y a des vrais combats à faire et qui sont dans la décolonisation des affects en nous. Enfin, c'est un peu abstrait, mais je pense que c'est de ça, c'est-à-dire... La question du désir, la question de l'érotisme, c'est récupérer, faire la part en nous de ce qui est, de ce qui est commercial, de ce qui est et de ce qui nous est propre, quoi. Et que cette espèce de décolonisation intérieure, qui est un pan du féminisme, mais aussi de plein d'autres choses, elle est absolument pas aboutie. Au contraire, je pense que les logiques néolibérales marchandes, pour le dire un peu vite, elles ont qui colonisent de plus en plus les affects, et que là, pour le coup, les réseaux sociaux sont aussi un vecteur de ça, d'entrée de plus en plus profonde des logiques marchandes dans nos subjectivités, et que les lignes de front, elles sont là, en fait, et que ça, c'est pas du tout un combat qui est fini, au contraire.
Il y a tant de désirs à créer et à satisfaire, tant de chemins qui ne cessent de se faire. Je pense aux palais qui ne cessent d'éclore et aux rencontres qui m'attendent encore, de ces jungles qui ne cessent de pousser. L'écriture ne peut rien prendre, rien tarir, rien abîmer. Et je m'endors.
Le cœur léger.
Extrait des chemins de désir, votre fiction qui vient de paraître aux éditions du Seuil et qui se retrouve un peu autrement en sonore, fiction sonore diffusée sur Arte Radio. Un grand merci à vous, Claire Richard.
Merci.
Merci.